Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. La Goulue a été la plus célèbre danseuse de French Cancan. Son nom est indissociable du Moulin Rouge, l'un des hauts lieux de la fête à Paris depuis la Belle Époque. Gouailleuse et libre, elle a longtemps incarné la Parisienne décomplexée et dévergondée jusque dans les œuvres de son ami le peintre Toulouse-Lautrec. Mais l'ascension de cette blanchisseuse n'a été que le prélude d'une chute vers la misère la plus noire. À travers le portrait de la Goulue, je vous raconte la fête parisienne pendant la Belle Époque dans un récit en deux parties. La Goulue, splendeur et misère de la Reine du Cancan, épisode 1, l'art de lever la jambe. Nous sommes à Paris au début des années 1890. Dans les coulisses du Moulin Rouge, c'est l'effervescence. Les danseuses de Cancan se bousculent dans les loges quand l'un des directeurs bouleverse leurs préparatifs. « Attention, ce soir, il y a du linge !» Et ce linge, ce beau monde donc, c'est le prince de Galles, le fils de la reine d'Angleterre Victoria et futur roi Édouard VII. Les artistes sont tout émotionnés, comme ils le disent, ce soir. Il faudra donner le meilleur. Dans les loges, ça caquette comme dans un poulailler. Mais il y en a une qui ne dit rien. Pourtant, elle est connue pour son verbe haut, aussi haut que son chignon sur le sommet de sa tête. Mais dans les coulisses, celle qu'on appelle la Goulue ne parle pas beaucoup. Elle se concentre. Elle est la reine du Moulin Rouge, la meilleure danseuse, la mieux payée. Mais toutes les autres lui disputent sa place. Il faut rester concentré. Il est temps de monter sur scène. La Goulue se déchaîne sur le plancher. Ses jupons volent autour d'elle. Elle danse comme une possédée. Elle rayonne. On ne voit qu'elle. Même Valentin le Désossé, son partenaire, peine à la suivre. Et pourtant, il est le meilleur danseur de Paris. Et à la fin de son quadrille, elle fait un grand saut et atterrit en grand écart au pied de l'orchestre. Le public est soufflé. À la fin du morceau, la Goulue se relève et remonte dans sa loge sans saluer. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les sens du prince de Galles. Il lui fait immédiatement monter un bouquet de fleurs. Alors la Goulue reparaît, offre le bouquet à l'orchestre, mais elle garde pour elle une rose qu'elle embrasse et glisse entre ses seins. Et puis avec sa gouaille de parisienne dévergondée, elle apostrophe le prince et lui lance une phrase qui fait blêmir les directeurs du Moulin Rouge. Louise-Joséphine Weber est née à Clichy-la-Garenne, aux portes de Paris, le 12 juillet 1866. Ce jour-là, le temps est à l'orage. C'est comme un signe annonciateur du caractère de la petite fille. Son tempérament ressemble à une tempête. C'est bruyant, irrésistible, terrifiant et beau. Elle est la quatrième enfant d'un couple originaire du Bas-Rhin. Madeleine est couturière et Dagobert, son père, bon, un nom comme ça, ça ne s'invente pas, son père donc, est charpentier. Dès l'âge de 2 ou 3 ans, la petite Louise, Loulou ou Lolotte pour les intimes, se passionne pour la danse. Si un orgue mécanique joue dans sa rue, elle descend et se met à tourbillonner en suivant la musique. C'est comme ça, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a un truc avec la musique. C'est instinctif, animal presque. Dagobert voit bien son potentiel, alors il lui apprend le chahut. Le chahut, c'est l'art de lever la jambe. Non, le chahut, ça vient avant le cancan. À partir des années 1820, les Parisiens se retrouvent dans les bals populaires. Pour relâcher la pression, ils dansent des quadrilles. On pique des airs d'opéra ou de ballet et on fait des chorégraphies en 5 figures. Et puis les hommes se mettent à improviser des figures désordonnées. Ça ressemble un peu à nos battles de danse aujourd'hui. C'est joyeux et on recherche la performance. C'est ça qu'on appelle le chahut. À partir des années 1850, les femmes rivalisent avec les hommes. Elles se mettent à danser de façon provocante en soulevant leurs jupons et en levant la jambe le plus haut possible. À l'époque, c'est très choquant de voir des femmes exhiber leurs jupons et montrer leurs dessous. Et parfois, elles portent même des culottes fendues. Vous vous rendez compte, à l'époque, voir un bout de chair dans un monde où il n'y a pas de nudité, c'est étourdissant. Et c'est pour ça que c'est un succès. Un peu plus tard, un Anglais, Charles Morton, importe le chahut en Angleterre et ce sont sur les scènes de music hall outre-Manche que cette danse devient le French cancan. Les Anglais sont so shocking. Mais en France, le chahut est un succès grandissant. C'est en 1858 seulement que le compositeur Jacques Offenbach monte Orphée aux Enfers aux Bouffes du Nord. Et c'est là qu'on entend ce fameux galop qui se prête à une danse endiablée. Et c'est ce morceau qui deviendra l'air classique du French cancan. Oh, pas si fort, on a compris. C'est le French cancan, quoi. Donc, j'étais en train de vous dire que pendant son enfance, Dagobert apprend le chahut à sa fille Louise et il la produit pour quelques piécettes dans des fêtes. La gamine danse sur les tables en levant la jambe. Chez elle, elle continue à s'entraîner devant le seul miroir de la maison. Elle prend des pauses, elle minaude, elle adore ça. Vers l'âge de 12-13 ans, Louise commence à travailler dans une blanchisserie de Clichy avec sa mère. Elle danse en repassant, elle agite ses fesses, ça fait rire tout le monde, mais ça exaspère sa mère. Louise se fait remarquer au point que le patron de la blanchisserie lui demande de poser pour une carte postale publicitaire devant la boutique. Louise trouve cet exercice très rigolo. Si le patron l'a choisie, ce n'est pas seulement parce qu'elle fait le clown à la boutique. Louise a quelque chose, une présence, un charisme. Regardez-la, vous allez comprendre. Avec ses cheveux blonds foncés remontés en chignon haut sur la tête, ses yeux bleus vifs et ses rondeurs généreuses avec une taille très fine marquée par son corset, elle correspond aux critères de beauté de l'époque. Mais elle a aussi une sorte de joie de vivre qui émane d'elle, un visage rieur, tellement différent des bourgeoises de son temps. Elle cause un titi parisien d'une vulgarité sans nom, mais indéniablement, elle a quelque chose qui chavire les hommes. Dans ce monde du 19e siècle où la bourgeoisie guindée impose ses codes austères, Louise est comme un animal libre et sauvage. Et puis, elle a quelque chose de très sexuel qui fait tourner les têtes. Quand elle livre du linge, tous les marlous du quartier lui tournent autour et les bons pères de famille lui font des propositions bien rémunérées. Mais Louise s'en fiche. Ce qui compte, c'est moins l'argent que ses envies. Sa vertu, elle l'a donnée à 13 ans à un jeune militaire croisé dans un bal. Et quand il lui arrive de monnayer ses étreintes, c'est parce que l'homme lui plaît bien. Sa liberté vous étonne ? À Paris au 19e siècle, c'est comme ça. La prostitution est partout. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la prostitution est officiellement interdite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prostituées. Avec la Révolution française, qui provoque une crise générale, beaucoup de femmes se retrouvent démunies financièrement. À part dans la haute bourgeoisie et l'aristocratie, les femmes travaillent, mais elles sont cantonnées à des métiers peu qualifiés et mal rémunérés. Vendeuses de fleurs ou de quatre saisons, couturières, etc. Pour ne pas mourir de faim, elles complètent leur salaire en se prostituant occasionnellement. La majorité de ces filles ont entre 15 et 25 ans. Le Palais Royal et les Tuileries deviennent un bordel à ciel ouvert. Résultat, la prostitution est d'abord tolérée en 1791, puis légalisée et encadrée juridiquement en 1810. C'est là que l'on ouvre les maisons de tolérance, les fameuses maisons closes, avec leurs tenancières, leurs lampions rouges et leurs gros numéros sur la porte. Les pensionnaires sont des filles à numéros, elles sont encadrées par la police. Les occasionnelles qui échappent à la police sont appelées les filles insoumises. Louise est de celles-là. Mais elle ne se rêve pas en lorette, en fille entretenue, non. À ceux qui lui proposent le mariage, elle répond « de la peau !» Manière imagée de dire « va te faire cuire un œuf ». Ce que veut Louise, c'est danser. Et ça tombe bien, parce que entre Clichy où elle habitait Montmartre, ça danse pas mal. C'est la grande époque des bals populaires et des établissements dédiés à la fête. À cette époque, le nord de Paris est un territoire réservé aux ouvriers et aux travailleurs agricoles. Le Moulin de la Galette, qui est un restaurant aujourd'hui, est un de ces lieux où les gens viennent guincher pour se détendre. C'est là que Louise aime gambiller. C'est à cette période qu'on commence à la surnommer la Goulue, sûrement parce qu'elle adore finir les fonds de verre. L'alcool, c'est sa seconde passion après la danse. Pour entrer au bal, il faut payer 25 centimes quand on est une fille, 50 si on est un garçon. Pour l'occasion, Louise emprunte à la blanchisserie des jupons et des culottes. On dit des pantalons à l'époque parce qu'elle veut des jolis dessous pour aller danser et lever la jambe. Si vous voulez comprendre l'ambiance de cette salle, regardez le tableau de Renoir, le bal du Moulin de la Galette. Vous le trouverez en deux clics sur Internet. Il y a une salle, mais aussi des jardins où on danse collé serré. En vrai, c'est moins sage que dans le tableau. On danse la valse, certes, mais aussi le quadrille et le cancan. C'est au Moulin de la Galette que la Goulue se fait aborder par un grand garçon mince au visage anguleux. Il a l'air un peu triste. Il n'est heureux que lorsqu'il danse. Il a compris tout de suite que Louise était comme lui. Ce garçon s'appelle Valentin. Valentin le désossé. Il est tellement souple qu'on croirait qu'il n'a pas d'os. De vous à moi, Valentin, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Jules. Il est fils d'avocat et frère de notaire. La famille est établie à Sceaux. Il vient danser pour échapper à son quotidien, à sa morne vie bourgeoise de juriste de province. La Goulue et Valentin le désossé s'entendent immédiatement. Ils danseront ensemble dans différentes salles, dont le Moulin Rouge, pendant 9 ans. C'est aussi au Moulin de la Galette que Louise rencontre Charles Destock, surnommé l'intrépide vide-bouteille. Il a la cinquantaine et fait un peu l'agent pour les danseuses et les horizontales. C'est comme ça qu'on appelle les courtisanes à ce moment-là. Enfin, tout ça, ce sont bien des circonvolutions pour dire qu'il est un peu proxénète de luxe. Il remarque tout de suite le charisme de Louise Weber. Cette adolescente a du chien. Et mon Dieu, quelle levée de jambes! Elle lève la patte jusqu'aux oreilles, comme les danseuses de cancan. Destock fait alors une proposition à la Goulue. Une proposition qui va changer sa vie. Pour découvrir ce que la Goulue va faire avec Charles Destock, je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode de ce récit. À très vite!